Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Vous faites partie depuis 3 ans de la communauté des Cénacoulos à Lourdes. Et vous êtes un des responsables
de ce
lieu de vie, ce lieu de vie communautaire avec près de 29 jeunes actuellement dans cette maison. Alors, vous êtes ici au micro pour revenir un petit peu sur votre propre cheminement. Un parcours où vous avez connu aussi un égarement. Alors, on va vous écouter.
Oui.
Et merci.
Merci. Oui, moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans, pardon. J'ai 38 ans et bon, ça fait bientôt 3 ans que je suis au Cénacolo. Moi, je me suis perdu pendant plus de 17 ans dans le milieu de la drogue. Je suis issu d'une famille catholique, mais non pratiquante. J'ai toujours une relation un peu compliquée avec mes parents. Déjà très jeune à l'école, j'avais pas des grosses difficultés, mais j'étais toujours à la limite. C'était Jérémy a les capacités, mais il peut mieux faire. Et ça m'a un peu suivi tout le long de mon parcours scolaire. J'avais un papa qui voulait un peu trop la perfection. Donc j'étais très vite, il était toujours derrière moi à mettre des limites. Je pouvais pas voir mes copains, je pouvais pas sortir. J'avais pas ce que pouvaient avoir les jeunes, entre guillemets, dans une famille normale. J'étais tout seul, isolé, très, très, très jeune. J'ai une grande sœur qui a 14 ans de plus que moi, donc je l'ai pas connue. Elle est très vite partie de la maison et ça a été très compliqué ça aussi pour moi. Notre relation a été un peu endommagé, on va dire, quoi. Et donc très vite, je me suis retrouvé un peu comme enfant unique. Me suis posé aussi beaucoup de questions en disant, est-ce qu'ils m'ont vraiment voulu? Est-ce que j'étais adopté? Voilà, des questions qui m'ont passé par la tête très jeune parce qu'il n'y avait pas cette communication avec mes parents. Et j'avais mon papa qui avait sa carrière dans l'aéronautique et ma maman était femme au foyer. Elle était coiffeuse, mais elle a arrêté de travailler quand elle m'a eu. Et voilà, une relation assez, assez simple avec ma maman. Donc j'ai jamais eu à me plaindre. Hein. J'ai toujours eu des baskets dans les pieds, des beaux vêtements. Mais à côté de ça, il n'y avait pas cette relation avec la famille. Il n'y a pas vraiment de communication. Comme je vous disais, mes parents, mon papa ne venait pas me voir au match de foot. Donc j'avais un peu cette blessure avec lui. Quoi. Lui, son truc, c'était la pêche. Donc il arrivait les week-ends, c'était à la pêche. Toujours la pêche, la pêche, la pêche. Que j'ai fait moi aussi, que j'ai pratiqué pendant pas mal d'années, mais moi je voulais m'ouvrir un peu à autre chose, quoi, et voir autre chose, mais bon, c'était très compliqué. Et les années ont passé, donc au niveau scolaire aussi, du collège, le collège c'est pareil, j'ai eu des difficultés aussi, je me suis très vite réfugié tout seul, pas forcément les bonnes fréquentations non plus, j'ai commencé à fumer mes premières cigarettes aussi en cachette, et arrivé au lycée, je voulais faire cuisinier, mais mon père a pas voulu. Il m'a dit tu pourras pas, t'as pas le niveau, de toute façon t'auras pas de vie de famille, faut que tu fasses un métier manuel. Donc je me suis très vite orienté vers la branche de la chaudronnerie, soudure. Et là je suis arrivé dans la 3e plus grosse cité scolaire de France, à Saint-Nazaire. Et là c'était un peu le début de pas la descente aux enfers, mais le début des problèmes, on va dire, quoi, parce que c'était 1300 personnes à la récré. C'était il y avait 5 lycées autour de mon lycée et c'était beaucoup de gens, beaucoup de diversité, hein. Moi j'arrivais de la campagne, donc très timide, je connaissais personne. Et très vite je vois les difficultés qui arrivent, quoi, parce que y a les mauvais garçons entre guillemets, les mauvaises fréquentations et moi je suis perdu, quoi. Je suis perdu, je sais pas quoi faire et très vite, on commence à me proposer le premier joint, hein, clairement. Moi, je ne sais pas ce que c'est et je vais faire comme tout le monde. Donc, j'achète ma première boulette de hashish, mais je ne sais même pas comment on fait pour rouler un pétard, quoi. Donc, j'arrive le soir chez moi, je dis, mais comment on fait, hein? On ne m'a pas expliqué. Et c'est vrai, non, c'est véridique. Hein. Ça commence comme ça. Et en fait, je traîne avec les mauvais garçons, le temps passe, mais... Mais je suis pas bien dans ma peau. Je suis pas bien dans ma peau, clairement. Je commence à lâcher le sport. J'ai fait du foot pendant plus de 12 ans. J'avais un assez bon niveau à l'époque, mais je me suis très vite perdu voilà, dans les drogues douces au départ, quoi. Et il y a tout qui a suivi, quoi. Donc je me suis détaché des vrais copains que j'avais depuis le début de mon enfance pour commencer à traîner avec d'autres garçons. Et voilà, c'était le début, ouais, comme je dis, des problèmes. Et puis de la crise, surtout avec mes parents. La crise de...
Vous avez quel âge à cette période?
Ah, j'avais 16 ans. 16-17 ans, 16 ans, 16-17 ans.
Qu'est-ce qui, alors les parents qui nous écoutent, Jérémy, qu'est-ce qui doit interpeller les parents? Quels sont un peu, je dirais, qu'est-ce qui peut mettre en alerte un papa et une maman que son adolescent, son garçon de 16-17 ans est en train peut-être de virer avec des mauvaises fréquentations et toucher à peut-être un début de cannabis et puis de drogue peut-être après un peu plus fort.
Mes parents, hein. J'étais juste là pour manger les repas, quoi. C'est tout. Je rentrais de l'école le soir, moi j'avais ma chambre, elle était au sous-sol. On mangeait tous les trois ensemble avec mes parents, mais on parlait pas, moi je parlais pas. Hein. J'étais un mur, clairement. Et mon père a commencé à voir un peu ces signes-là, quoi, qu'il se doutait de quelque chose. Donc il a commencé à faire un peu la police, quoi, à fouiller un peu dans mes affaires, à retrouver les cigarettes, à retrouver les feuilles, à retrouver un peu tout, les bouteilles en plastique, voilà, que je faisais des bangs, enfin voilà, toute la tiraille du fumeur, on va dire. Et voilà, il se posait des questions. Et bon, ben, moi, mon père était très gentil, mais il avait un peu la claque facile aussi. Donc, je me suis très vite fait secouer aussi. Donc, ça aussi, ça m'a pas mal marqué. J'avais un peu peur de lui, donc je m'échappais vraiment. Dès que je pouvais, je partais, quoi. On m'avait offert un scooter, je partais voir mes copains. Et bon, je rentrais, j'avais des heures pour rentrer, hein, bien sûr, mais voilà, tant que je pouvais partir, je partais, quoi. Et. Ça a duré comme ça pendant un sacré moment.
Jusqu'à votre départ de la maison, à l'âge de 20 ans?
Oui, à l'âge de 20 ans, mon papa m'a gentiment demandé de partir parce que j'étais resté un mois. J'ai fait un mois de chômage. Hein. Un mois de chômage et au bout d'un mois, il m'a ramené un article de journal. C'était pour travailler dans le milieu automobile. Il me dit, tu vas voir, c'est une entreprise qui recrute, c'est en plein boom. Je me rappelle, à l'époque, c'était l'époque des Opel Tigra. Il me dit, tu vas voir, c'est génial, je t'emmène faire l'entretien d'embauche. Et pas loupé, moi je sortais juste de l'école, je savais souder, je savais me servir de mes mains. L'entretien, je l'ai fait en 5 minutes et ils m'ont pris, quoi. Sauf que c'était à 300 km de chez moi. Et je connaissais personne. Je connaissais personne et pas de copains surtout. Donc ma première copine, entre guillemets, c'était la bouteille. C'était la bouteille, c'était la bouteille de whisky et que je m'achetais au départ les week-ends. Et que j'appelais mes copains parce que mes copains me manquaient. Et j'étais complètement pompette, hein, clairement, hein, et que je pleurais au téléphone parce qu'il me manquait. Et voilà, je passais des heures avec mes copains, parce que je savais pas quoi faire. Et même le peu de sorties que je faisais, j'allais au bar à 20 ans. Et je commençais à traîner au PMU à 20 ans, à me faire des copains, des collègues de boisson à 20 ans. Je traînais avec des plus vieux déjà. Et là très vite, pareil, je me suis retrouvé dans un foyer pour jeunes travailleurs. Et bon, c'était encore pire. Hein. C'était des garçons qui... Voilà, il y avait la cocaïne qui arrivait, il y avait les extasies, il y avait vraiment les drogues un peu plus dures, hein, on va dire.
Les
rêves partis aussi. Ouais. Voilà, je crois que c'était une grosse période de ma vie.
15 ans de rêves partis.
Ouais, voilà, moi j'ai vécu en camping-car pendant 2 ans. J'ai vécu en camion aussi avec des copains. J'ai fait partie d'un sound system. Donc c'était les fêtes illégales. Hein. Là, je sais que ça a pris un gros boom, là, une grosse mode en ce moment. Mais moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. C'était ma vie, en fait. Hein. Je travaillais toute la semaine et j'attendais qu'un truc les week-ends. C'était ça, quoi. C'était la musique. Au départ, c'était un peu une addiction. C'est un monde éphémère, quoi. Je me perdais là-dedans pour être déconnecté de ma vie, hein, de ce que je vivais clairement de la semaine, du monde du travail et de plein de choses.
Alors, je vois le temps passer, Jérémy. Oui, bon. Alors, comment vous avez, je dirais, arrêté, après 15 ans, ces rêves partis? Et comment avez-vous atterri, il y a 3 ans, dans cette communauté, près de Lourdes, après, la Sénacoulo? Qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle vous est tombé dessus?
Après des hauts et beaucoup de bas, une relation très compliquée avec une fille aussi, avec qui je me droguais beaucoup et avec qui elle aussi est tombée enceinte et qui a avorté, qui a été un gros clash pour moi. Après une période dans la rue, j'ai eu la chance d'être tombé sur des gens du Secours catholique qui là m'ont aidé. Je pense que là, c'était un peu le début du chemin avec le Seigneur, je pense, on va dire. Et j'ai réussi à remonter un peu la pente. Mais le problème, c'est quand on est toxicomane, il y a des drogués partout, il y a des dealers partout. Là, c'était très vite et je suis très vite retombé aussi. Et ces personnes-là du Secours catholique m'ont parlé du Cenacolo. Et c'était le début du chemin, on va dire. Je suis arrivé, moi, je faisais à peine 70 kilos, j'étais blanc comme la cocaïne, j'avais plus de dents. Et il me restait juste 12 dents, c'est tout, quand je suis arrivé. Et voilà, le chemin a été très dur parce que j'étais pas du tout croyant. J'ai eu un chemin de conversion au Tchénakolo au bout d'un an et demi. Et voilà, j'ai découvert la foi, j'ai découvert Jésus, j'ai retrouvé mon sourire, j'ai fait ma première communion et ma confirmation aussi au Tchénakolo. Voilà, j'ai découvert des vrais copains. J'ai découvert ce que c'était que l'amitié vraie, la vérité. Bon, la vérité, moi, je la savais. Hein. Je savais que j'étais un toxico et un alcoolo. Mais après, la vérité aussi d'apprendre à vivre avec tout ça, quoi. Et de savoir que c'est possible de retrouver l'espoir aussi. Et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Bon, j'ai fait des engagements qu'on fait tous dans la maison. J'ai fait la pizza, j'ai fait pas mal de choses. Là, maintenant, on m'a donné récemment les clés de la maison avec le téléphone. Je suis responsable avec un autre garçon qui s'appelle Javier, un petit espagnol, avec qui je m'entends très bien. Et voilà, on a un bon groupe. On a un groupe exceptionnel où il y a l'amitié, où il y a la bienveillance, où l'envie de s'en sortir. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis venu aussi vers vous pour l'émission, pour transmettre ce message, pour transmettre aussi aux parents qu'il y a la possibilité d'y croire, sans forcément la médecine, les médicaments, les psychologues. Faut en vouloir aussi, hein, c'est sûr.
Donc,
mais
au Tchénakolo, il n'y a ni médicaments, ni psychiatre, ni psychologue.
Non.
En fait, le suivi se fait par le travail, la prière.
Voilà,
en
c'est
fond,
ça.
C'est Jésus lui-même.
Notre médecin, c'est Jésus. Hein. C'est lui qui nous écoute le soir. Moi, j'ai passé énormément de temps en chapelle à pleurer tous les soirs. Mais quand je vous dis pleurer, j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais. Et je pleure encore des fois parce que j'ai peur, hein, clairement. J'ai 38 ans, j'ai peur de ce qui va se passer demain. Parce qu'on a beau passer 3 ans chez Nakolo, on est faible aussi. On sera toujours faible, un peu, entre guillemets. Parce que le monde de dehors est dangereux. Je l'ai encore vu.
Un peu redoutable.
Un peu redoutable. Je l'ai encore vu encore quand je suis sorti cet été chez mes parents. Cette génération connectée, c'est les gens qui parlent plus. Ça fait un peu peur. Donc on a la chance d'avoir un lieu de vie exceptionnel sur une colline avec 17 hectares, avec des animaux, avec beaucoup de sourires
Est-ce qu'on peut dire que le miracle du Tchénakolo, c'est cette vie fraternelle?
Oui, c'est sûr.
Et communautaire qui, finalement, unit ses cœurs d'hommes.
C'est sûr, oui, parce qu'on arrive tous... moi, je ne savais pas ce que c'était les communautés avant, surtout le Tchénakolo. J'ai regardé les vidéos un peu sur YouTube, mais j'ai vu chaque garçon arriver avec son histoire. Et comme je vous dis, il y a les problèmes d'addiction à la drogue, à l'alcool, mais je vois, il y a des jeunes, hein, des gamins qui ont 20 ans, qui sont dépressifs. Et ça, je crois que c'est un truc qui me sort par la tête parce que quand être dépressif à 20 ans, j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça aussi, je trouve que le monde va mal aussi là-dessus, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour ça, quoi.
Alors, merci Jérémy, le temps est passé, le temps nous est compté dans ce rendez-vous des clés pour grandir. Oui. Merci à vous, je vous ai appelé donc à ce micro pour que tous ceux qui sont parents peut-être, tous ceux qui sont parents et qui sont en difficulté ou qui désespèrent parce que le monde tourne difficilement bien et que les jeunes, dans cette période aussi que nous connaissons de crise sanitaire, connaissent des périodes dépressives, suicidaires, vos témoignages depuis quelques semaines sur les ondes de nos radios chrétiennes apporte un peu d'espoir, de lumière, de réconfort. Merci Jérémy.
Merci beaucoup.
Et à bientôt. La semaine prochaine, nous rejoindrons aussi un autre frère de cette communauté qui se prénomme Jacob. Merci Jérémy.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.